l'adaptation de Bouvard et Pécuchet en film avant la fin des années 80, dans le courant des années 80, j'en avais parlé avec Andrzej Wajda, le grand metteur en scène polonais, qui avait envie de le faire. Ça m'a beaucoup surpris, mais il connaissait très bien l'œuvre et il avait envie d'en faire un film de cinéma. Nous en avons parlé ensemble, car Bouvard et Pécuchet est un de mes livres de chevet depuis longtemps. Très vite, il nous est apparu impossible de réduire Bouvard et Pécuchet à un film, disons, d'une heure cinquante, de la longueur habituelle d'un film, même en allant jusqu'à deux heures. Il nous paraissait impossible de le faire, de trouver le budget, de trouver... Bon, mais quand même, on avait fait une première... adaptation, et une des idées de Wajda, je me rappelle, c'est de ces idées folles qu'on jette un moment et qu'on oublie, était que l'action commençait en 1835, que la deuxième scène était en 1840, la troisième en 1845, et que ça se terminait en l'an 2000. Vous voyez, qu'il y avait à l'intérieur de l'histoire une évolution insensible et apparemment invisible, très bien faite, comme il l'aurait sûrement faite, pour nous amener au temps d'aujourd'hui. Et au fait qu'à la fin, Bouvard et Pécuchet fabriquaient une arme nucléaire dans leur cuisine. Après, je me rappelle ça, mais très vite on a abandonné le projet, mais quelque chose m'était resté dans la tête. Et en en parlant avec Jean-Daniel Vérag un jour, qui est en mon sens un des deux meilleurs metteurs en scène de télévision que nous avons en France, l'autre étant Maurice Felwick, il nous a semblé qu'on pouvait, on en parlait, faire un double film de télévision, c'est-à-dire avoir la longueur nécessaire qui est 3 heures. Alors, après ça, est arrivée la lourde tâche de convaincre la télévision, parce que ça, c'est toujours un problème jusqu'à maintenant, et ça a toujours été un problème, car il y a à la télévision, comme d'ailleurs souvent dans le cinéma, des gens dont c'est le métier, dont c'est la spécialité de dire non. Oui, on a l'impression qu'il y a de temps en temps des séminaires qui sont organisés dans lesquels on apprend les arguments à déployer pour refuser un projet, quel qu'il soit. Oui. Alors, très souvent, on apporte une évidence et on se heurte à des arguments qui sont toujours les mêmes, à peu près les mêmes, on les connaît. Il se trouve que par miracle, on a réussi à convaincre, je ne sais plus quelle chaîne de télévision, c'était la 2 ou la 3, je ne sais plus. Enfin, c'était une chaîne du service public de toute façon plus Arte, évidemment.
Plus Arte.
Plus Arte, la coproduction était toujours possible.
Arte, Vidéo, CNC, Europe Image. Ouais. Il n'y a pas la chaîne, mais c'est Arte.
Et voilà, ça s'est fait comme ça, donc on s'est mis au travail. Je crois que j'ai écrit le scénario en 87 et 8. Probablement fini en 88, et le film s'est tourné dans la foulée sans aucune difficulté, dans la mesure où nous avions dès le départ l'idée de tourner avec Jean Carmé et Marielle. Jean Carmé étant un acteur avec qui j'avais déjà travaillé, que je connaissais bien, qui était un ami, et Jean-Daniel Vérag avait lui travaillé avec les deux, donc c'était d'ailleurs on a travaillé avec eux ensuite pour la controverse de Valladolid, en particulier plus tranquillement. Donc c'est toujours intéressant, quand on écrit un scénario, d'avoir en tête et sous les yeux les visages et les voix des acteurs qui vont jouer ce que vous écrivez. C'est toujours très précieux, d'autant plus que Jean Carmé me faisait quelquefois le plaisir de venir chez moi et de me lire à haute voix des scènes entières, y compris des scènes où il ne jouait pas, y compris de films dans lesquels il n'avait pas un rôle, simplement pour avoir la réaction instinctive d'un acteur quand il lit un texte, d'un vrai acteur, qui ne joue pas la comédie, ne cherche pas à me convaincre, mais voir comment quelque chose que j'ai écrit est exprimé par un comédien. C'est tout à fait passionnant. De la même façon qu'il est passionnant pour l'auteur de jouer lui-même, quelquefois, non pas du tout en public, mais dans des répétitions. Par exemple, Peter Brook m'a très souvent fait passer des auditions avec des acteurs qui l'auditionnaient, de scènes que je venais d'écrire, pour que pour que l'auteur sente lui-même les aspérités, les difficultés, les obstacles qu'il a lui-même mis à l'intérieur de telle ou telle scène. Ça, c'est très, très précieux. Alors, les deux acteurs, on en parlait au déjeuner, ne correspondent pas exactement physiquement au personnage de Flaubert, puisque Jean Carmé était un peu trop gros. Pécuchet est plus palot, plus faible, plus... Le couple tel que les décrit Flaubert est plus proche de Laurel et Hardy que de... Mais il y a, chez Pécuchet et chez Carmé, quelque chose de commun qui est une... comment dire... une facilité d'effacement. C'est un acteur Carmé qui savait faire oublier qu'il jouait pour être tout à coup le personnage, tout en le jouant évidemment très très habilement, mais comme s'il était le personnage de manière naturelle, instinctive. Alors que Marielle est un acteur, c'est un acteur extraverti. Nous avons beaucoup joué dans le film sur l'introversion de Pécuchet, l'extraversion de Marielle, exactement d'ailleurs comme le fait Flaubert. Bouvard est des deux personnages, celui qui a, d'abord c'est celui qui hérite, qui a l'argent, qui a la faconde, qui a des rapports avec les femmes, qui a de l'autorité, etc., qui entraîne très souvent, ou en tout cas au début, Pécuchet dans l'aventure. On a fait quelques, quand je commençais à écrire le scénario, on a fait quelques lectures de scènes avec les deux, c'est-à-dire pour voir un peu comment ça, et ça se passait très très bien. Sans vraiment, il n'y a jamais eu, Jean-Daniel l'a dit très, très souvent, la moindre difficulté de jeu. Je vous le disais pendant le déjeuner, la seule réserve m'est venue un jour de Jean Carmé qui m'a dit, tu sais, moi, jouer Pécuchet, c'était extrêmement facile, ça sortait tout naturellement, ça coulait de source, je n'avais aucun effort d'interprétation à faire. La seule chose, c'est que de temps en temps, je me surprenais à admirer Marielle. Ça, c'est tout ça très beau, c'est un très bel hommage d'un comédien à un autre. Un comédien qui joue, qu'est-ce qu'il joue bien. Ce qui, en un sens, va bien aussi avec le personnage de Pécuchet. Alors, pour parler maintenant de l'adaptation elle-même, en parler très brièvement, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un long discours. Moi, ce que j'aimais dans Bouvard et Pécuchet, ce que j'aime toujours, c'est que c'est un roman écrit de l'extérieur des personnages. C'est un roman objectif. C'est un roman qui décrit des actions, qui dit des phrases prononcées, mais qui se garde de toute introspection, de toute analyse intérieure, de toute mise en place de l'auteur à la place de tel ou tel de ses personnages. Et ça, j'aimais toujours beaucoup. Ça, ce qui est effectivement... quelque chose de très cinématographique. Je disais à une époque, Bouvard et Pécuchet, Flaubert l'a écrit avec une caméra. C'est-à-dire, il s'est mis à l'extérieur et il a filmé. Et c'est par moments, c'est très troublant, car il y a des scènes dignes de burlesque américain dedans, avec même des cascades, avec même des gags construits, et qui sont dans l'écriture, quand Flaubert va à la ligne, c'est presque comme s'il indiquait déjà un découpage cinématographique. Passage d'un plan à un autre, vous voyez, ou d'un champ à un contre-champ, ou d'un plan d'ensemble à un plan rapproché. C'est même assez surprenant. Il faudrait peut-être un jour pousser un peu plus loin cette étude, de voir s'il y avait déjà un cinéaste caché dans Flaubert. C'est un problème une question que je me suis très souvent posée tout au long de ma vie, en travaillant avec de grands cinéastes, de me demander par exemple qu'est-ce qu'aurait fait Louis Buñuel avant l'invention du cinéma. Il n'aimait pas écrire, il n'aimait même pas son écriture, il ne savait pas dessiner ni peindre, et il est devenu un très grand cinéaste, comme s'il avait trouvé dans le cinéma son moyen d'expression qui n'attendait que lui. Oui. Donc qu'est-ce qu'il aurait fait en 1830? C'est très très difficile à dire. Du théâtre peut-être, encore que il n'était pas auteur, et la notion même de metteur en scène de théâtre n'existait pas. À cette époque-là. D'où la question suivante, combien de grands cinéastes ont vécu avant l'invention du cinéma? Je vous laisse le soin d'y répondre. Ils n'ont jamais même su qu'ils étaient des cinéastes en puissance. D'ailleurs, Buñuel lui-même disait très souvent, c'est une phrase qu'il aimait beaucoup, enfin que j'aimais l'entendre dire, combien de Hemingway sont nés au Paraguay? Qui peut répondre à cette question? C'est-à-dire, sont nés analphabètes dans des familles pauvres, sans savoir même que la littérature existe, sans savoir qu'ils avaient en eux la possibilité d'écrire. C'est une très grande question, celle-là, qui se pose à la fois géographiquement dans le cas du Paraguay et historiquement dans le cas de l'invention du cinéma. Et très souvent, il m'est arrivé de parler du pré-cinéma, c'est-à-dire de ce que l'on peut, en commençant à la caverne de Platon, puisqu'il y a quand même un faisceau de lumière qui passe sur les têtes et qui va dégager des fantasmagories sur un écran de pierre au fond de la caverne. Mais très souvent, il m'est arrivé de m'interroger ici ou là sur le pré-cinéma, sur des auteurs ou des peintres qui ont senti que quelque chose manquait dans l'expression humaine, qui était le mouvement de l'image et l'enregistrement de la voix. On trouve dans certains tableaux, par exemple de Poussin, une idée, ce qui sont des images évidemment immobiles, mais qui sont comme différents états de la même action à différents moments. On a l'impression que si on les mettait l'une après l'autre, on aurait presque une peinture animée ou un dessin animé. Et d'ailleurs, le cinéma a été inventé, vous le savez certainement, sous Louis XIV, par le chanoine Kircher, dans un livre très célèbre qui s'appelle des Ars Magna, le grand art, Lucis et Umbrae, de la lumière et de l'ombre. Il a été, Kircher est considéré comme l'introducteur de la lanterne magique en Occident, mais dans ce livre-là, que je possède et qui est notre Bible à tous, se trouve un instrument qui indique très clairement qu'une image, un dessin avec une manivelle qu'on regarde dans différents états du dessin, on a une impression de mouvement. Donc c'est bien le principe même du cinéma. Ce qui manquait, c'était l'électricité, c'était l'énergie. Mais le principe existe plus de 2 siècles avant que le cinéma lui-même existe. Donc ça m'a beaucoup, très souvent fasciné, et dans cette catégorie-là, je mets souvent Bouvard et Pécuchet. Comme par moments, certaines pages de Bouvard et Pécuchet paraissent être des pages de scénario. Alors j'avais cet appui, et puis je me suis dit, ce qui est évident quand on lit le livre, c'est que, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il est inachevé, c'est que c'est répétitif, c'est que on sait d'avance que telle tentative va se terminer par un échec. Donc chaque fois qu'il se lance dans quelque chose de nouveau, nous connaissons, si j'ose dire, la chute. Je me suis dit qu'il fallait peut-être introduire ce que nous appelons une dramaturgie invisible, c'est-à-dire une progression qui ne soit pas nettement articulée, c'est impossible, il n'y a pas de véritable conflit entre les deux personnages, mais qui soit comme une progression dramatique qui me guiderait à moi dans l'écriture du scénario. Et ça a été le cas. Assez vite, je me suis rendu compte qu'on pouvait diviser l'histoire en 3 catégories. Une première qui serait l'illusion, c'est-à-dire nous allons partir, nous avons de l'argent, nous allons vivre à la campagne, nous allons faire ceci, cela, explorer toutes les connaissances humaines possibles et faire du jardinage, et faire que le monde s'ouvre à eux. Ça, c'est la première partie de l'illusion. La deuxième, c'est évidemment la réalité, la dure et triste réalité qui s'oppose toujours à l'illusion première. C'est la partie massive et la plus importante de l'œuvre. Mais j'ai rajouté une troisième partie que j'appelle la sagesse. En tout cas, le chemin vers la sagesse, qu'à partir d'un certain moment dans le livre, quand il commence à penser à créer un institut de lutte contre la bêtise, enfin d'études de la bêtise, etc., de se lancer dans la politique, enfin, disons, il y a une prise de conscience de leur médiocrité, et peut-être même, en dépit de Flaubert, qui les a toujours traités comme deux cloportes, mais j'ai toujours eu l'impression que ces personnages étaient plus intelligents que Flaubert n'avait pensé, et que même ils lui échappaient, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, étant donné ce qu'il était lui, que de leur donner à eux une partie de lui-même. C'est aussi quelque chose de très passionnant dans la lecture du livre, et surtout quand on travaille à lui donner vie, puisque là, il faut avoir évidemment un rapport très particulier avec le livre. Dans cette partie, et c'était la dernière, la sagesse, qui se termine, comme le livre est inachevé, il ne se termine pas par quelques notes, j'ai introduit à ce moment-là une œuvre personnelle que nous avons faite avec Guy Bechtel, qui s'appelle « Le dictionnaire de la bêtise ». Vous savez à quel point Flaubert a écrit sur la bêtise et à quel point il en était fasciné. Et je me suis dit qu'au fond, Bouvard et Picuchet, dans cette œuvre qu'ils préparent, cette œuvre, ça pourrait être notre œuvre à Guy Bechtel et à moi. Et c'est pourquoi, à la fin que vous allez voir, il y a quelques phrases, quelques citations extraites, je vous le dis d'avance, elles sont authentiques et elles sont extraites du dictionnaire de la bêtise. Donc, c'était le moment où ils vont parvenir à faire vraiment quelque chose de leur vie. Et d'ailleurs, l'un des deux dit à l'autre, c'est une tâche grandiose que tu me proposes. Quand il est question de ça. C'est la dernière scène qui n'est pas dans le livre, qui est indiquée dans le livre, mais je ne crois pas vraiment avoir trahi le livre que de l'avoir rajouté. Elle s'y inscrit, me semble, très, très naturellement, et surtout, elle me permettait à moi d'avoir une conclusion. Voilà, grosso modo, le chemin, grosso modo, parce qu'évidemment, il faudrait rentrer dans le détail de l'écriture, mais là, je ne m'en souviens plus, scène par scène, il y a plus de 20 ans que j'ai écrit ce scénario. Le tournage s'est passé entièrement dans une maison que Jean Daniel et ses assistants avaient trouvée en Indre-et-Loire, je crois, au sud de la Normandie, ou dans le Loir, je ne sais plus très bien où. Et tout a été tourné là-bas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de studio. La maison a été aménagée, l'équipe habitait dans un hôtel à quelques distances de là. Tout a été tourné sur place, ce qui, disait Jean Daniel, a donné au film une authenticité dans le fait même que les comédiens vivaient dans l'endroit où ils jouaient. C'est-à-dire qu'il y avait une assimilation entre les murs, les meubles, les éléments de décor, leurs vêtements et eux-mêmes, qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, qu'ils ne se sentissent Bouvard et Pécuchet du début à la fin de l'aventure. Ça, je crois, beaucoup aidé quand on tourne dans un studio et que tous les soirs on rentre chez soi, qu'on regarde la télé, qu'on s'habille, qu'on sort avec des amis, et que le lendemain on revient au studio et qu'on redevient le personnage, c'est pas tout à fait la même chose. Je l'ai moi-même vécu une fois, c'est-à-dire de coucher sur le décor même du film. Ça ajoute quelque chose. On est vraiment prisonnier à la fois de l'histoire, de l'ambiance et de tout ce que cette maison, relativement modeste d'ailleurs, mais d'époque, porte de blessures déjà. C'est une maison qui a déjà vécu, d'espérance, puisque les deux personnages ne sont faits que de cela, et de rêves de nouveau déçus. C'était très touchant de les voir là. Je suis allé plusieurs fois sur le tournage, qui s'est très très bien passé. C'est un film de télévision, donc les moyens étaient réduits, le tournage était rapide, il fallait tourner, je pense, en 4 ou 5 jours, quelque chose comme ça, à une vitesse à peu près 2 fois supérieure à celle du cinéma. Au cinéma, on tourne à peu près de 2 à 3 minutes utiles par jour. À la télé, c'est au moins 6. Ça va beaucoup plus vite. Mais oui, donc il faut savoir dans le scénario qu'il faut éviter les extérieurs nuit parce que le lendemain, l'équipe doit récupérer. Qu'il faut éviter les décors où on n'a qu'une demi-journée de travail, parce que la demi-journée est perdue. Il y a beaucoup d'astuces de scénaristes qu'il faut connaître. Bon, c'est une question de pure, de simple expérience, tout simplement. Voilà, non, mais à la fin, le film était... On a très peu retouché le montage. Très, très peu, et le film est sorti, a eu le Sept d'or, a été couronné d'un Sept d'or, dans lequel on m'a fait monter sur scène, et je n'ai dit que 2 mots ce soir-là, c'était merci Flaubert. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez plus de précision, si je suis capable de vous en donner, ce qui n'est pas sûr.
Je me demandais s'il y avait des disciplines que vous aviez laissées de côté. J'ai eu l'impression que l'histoire, par exemple...
Oui, l'histoire, parce qu'elle était trop bavarde. Oui, parce que les discussions sur l'histoire, les lectures des livres d'histoire supposent de très très longs dialogues.
Oui, et des connaissances qui sont un peu obsolètes
parce que les sciences historiques ont évolué depuis ce temps-là, etc. De la même façon, il était très difficile, il est toujours très difficile pour nous, dans le film qui se passe à peu près 30 ans avant l'époque où il est écrit, en tout cas la première partie, se passe 30-35 ans avant, d'imaginer... cette époque-là, qui est avant la révolution de 48, hein. Donc c'est dans les années 30, 32, 33, quelque chose. D'ailleurs, il est dit, quelque part dans le livre, et ça m'avait beaucoup frappé, que Pécuchet allait fréquenter de temps en temps un observatoire qui se trouvait à Paris pour regarder le ciel et les étoiles. Donc il était déjà, avant de rencontrer Bouvard, il était déjà curieux d'un certain nombre de choses. Il y a dans ces deux personnages quelque chose d'extrêmement touchant, c'est le désir de ne pas passer à côté du savoir. C'est-à-dire que le savoir n'est pas un territoire réservé à quelques-uns, même s'ils sont à l'école normale supérieure.
Mais vous le soulignez.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que c'est que cette souffrance d'ouvrir des portes à un accès qui nous est interdit.
Qui nous est interdit, exactement.
Et ça, c'est un...
Oui, c'est vrai.
Ça souligne bien cela.
Et vous savez à quel point ça reste vrai, parce que c'est un état des choses duquel souffrent beaucoup les scientifiques d'aujourd'hui, qui est de ne pas pouvoir, moi j'ai beaucoup travaillé avec des physiciens et astrophysiciens, de ne pas pouvoir communiquer leur savoir en termes simples. C'est-à-dire, entre eux, ils ont un langage qui est un langage mathématique ou physico-mathématique qu'ils peuvent utiliser et qu'ils peuvent comprendre. Mais dès qu'ils s'adressent à moi, par exemple, ce langage m'est interdit. C'est comme s'ils me parlaient chinois. Et donc je suis obligé de leur faire confiance sans pouvoir avoir la moindre chance de percevoir la logique même de ce qu'ils disent. Et on sent ça déjà dans Bouvard et Pécuchet. Pourquoi à des hommes de condition modeste, qui sont des copistes, Bouvard et Pécuchet, aujourd'hui, ce seraient des imprimantes. Hein, ce qu'ils disent toujours, ce serait des... Alors, ce qui permet de mesurer l'importance qu'avaient les copistes à cette époque-là. Car tous les actes notariés, énormément de choses, devaient être copiés en plusieurs exemplaires d'une belle écriture pour être lisible, car il n'y avait aucun autre moyen de les reproduire, pas de photocopie.
Et les manuscrits de Flaubert aussi.
Aussi, naturellement.
On voit ça dans Balzac, le colonel Chabert.
Il y a une description magnifique d'un
bureau de notaire. Un bureau de notaire. Qui ne font que copier.
Alors, ce n'est pas un métier indigne de copier, mais c'est un métier, évidemment, qui ne suppose aucune invention, par le fait même que l'on copie. C'est un métier qu'ont exercé les moines du Moyen-Âge et qu'ils poursuivent, naturellement. De ce point de vue, comme vous savez, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire du livre avec Umberto Eco. On a publié un livre l'année dernière là-dessus. J'ai suivi de près tous les mouvements de la Bibliothèque nationale pour conserver les livres, simplement pour les conserver, pour qu'ils ne se détruisent pas. Alors, dans les années 50, déjà, il y avait des microfilms, pour qu'au cas où le papier se détériorerait, ou au cas où l'encre disparaîtrait. Ensuite, il y a eu des dactylos qui ont tapé plusieurs milliers d'ouvrages, vous vous rendez compte, avant le laser. Ensuite est arrivé le laser, puis d'autres procédés. Alors, quand ce dactylo était au travail, j'en ai vu quelques-unes, j'ai demandé au directeur de la BN de l'époque, je crois que c'était Gourdon, ou le roi de la Turisme, je ne me souviens plus, s'ils avaient pensé à repérer le nombre de fautes que faisaient les dactylos. Et je vous dis ça parce que c'était un secret qui m'avait beaucoup frappé. Il m'a dit, oui, on y a pensé, on a fait le compte, c'est le même rythme que les fautes des moines au Moyen-Âge. C'est-à-dire, c'est à peu près le même...
Pigier, même combat.
Oui, à peu près le même combat, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'attention se fatigue, où une faute vient, puis une autre, et puis deux ou trois fautes en même temps. Oui, c'est très rapproché d'une autre. C'est très, très curieux. Mais on m'a montré des exemples, c'est très frappant. Tout ça, c'est une simple parenthèse. C'est pour vous dire que Bouvard et Pécuchet certainement se trompaient dans leur copie. Encore que là, il ne s'agissait pas de grands textes, il s'agissait d'actes de vente, d'achat, notarié, d'inventaire, beaucoup d'inventaire devait être fait, etc.
Oui, ça fait longtemps, mais est-ce que vous pourriez, en rentrant dans votre mémoire, nous dire deux, trois mots de la façon dont vous avez écrit ce truc qui est... Parce qu'une des qualités du film, véritablement, qui a une fâcheur qui revient à chaque fois qu'on le revoit, c'est, je crois, dans l'économie de l'écriture. C'est étonnant comme vous avez réussi un travail de condensation de manière à ce que l'image ne soit pas illustrative de ce qui se dit, et que néanmoins tout le contenu de l'aventure intellectuelle soit là. Comment vous avez travaillé?
Ben, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que ça, c'est du langage cinématographique. Évidemment, le dialogue de cinéma n'est pas du tout un dialogue de théâtre et pas du tout un dialogue de roman. C'est autre chose. On parle beaucoup moins au cinéma que dans la vie. Évidemment, donc il faut trouver à dire les mêmes choses en moins de mots et en les alliant à des images. Je ne sais que vous dire. Ça, c'est
vous aviez déjà la connaissance du casting, vous saviez que c'était...
Oui, on le savait, on l'a su assez tôt. Ça. Donc ça a aidé beaucoup. Et le fait même, comme je le disais, que les deux acteurs sont venus nous lire, et, bon, en tout cas me lire des scènes à haute voix en cours d'écriture, ce qui aide énormément à les entendre. Oui.
Vous aviez dit que vous aviez déjà en fait réfléchi à ce projet pour un Vaida. Projet film.
Oui, on en a parlé déjà avant que vous arriviez. On en a parlé. Mais pour écrire, il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que quand on écrit une action qui se passe dans le passé, que ce soit Shakespeare ou que ce soit Flaubert, une adaptation de Shakespeare ou de Bouvard et Pécuchet, nous n'écrivons pas et nous ne filmons pas pour un public du temps de Flaubert. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est pour un public d'aujourd'hui. Donc, il faut que tout ce que nous allons lui dire et lui montrer soit immédiatement accessible, sans effort historique, sans connaissance particulière, sans connaissance savante de tel ou tel jargon ou de tel ou tel événement. Donc, ça, c'est la première des qualités. Mais en même temps, il faut garder un petit parfum dans l'écriture, c'est-à-dire on peut pas dire des mots d'aujourd'hui. On peut pas dire c'est parti mon kiki ou des choses qui ce serait tout aussi faux que de rester avec un langage d'époque. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, dans tous les cas, le chemin qui nous est réservé, le chemin d'écriture, est très étroit. C'est très étroit, il est très précis, mais très étroit. Et on ne peut tomber ni du côté d'un faux modernisme, on ne peut pas parler d'aérodynamisme, ou de n'importe quoi, de notions d'aujourd'hui, ni d'archaïsme. Il est entre les deux. Ni d'un langage trop contemporain de Flaubert, que lui et ses copains étaient les seuls à comprendre. Vous voyez, donc ce chemin est très étroit, mais très précis. Et il est absolument essentiel de le trouver. Ça a été un des problèmes de ma vie. Pour adapter le Mahabharata indien, une grande épopée indienne écrite en sanskrit il y a 3000 ans, il faut trouver un langage d'aujourd'hui qui ne soit évidemment pas un français commun, courant, banalisé et argotique d'aujourd'hui, mais qui ne soit pas non plus plein de mots sanskrits et de notions absolument impénétrables. Donc c'est très étroit, le chemin est toujours très très étroit. Mais il faut le trouver, pour le Mahabharata, je vous dis ça, mais ça vaudrait pour Bouvard et Pécuchet, j'avais fait de longues listes de mots que je m'étais interdit d'employer. Oui, par exemple, mais des mots très simples. Par exemple, le mot tragédie ne dirait rien dans le monde indien ancien. Tragique, tragédie, out. Mais vous pouvez pas mettre non plus une épée. Vous pouvez pas mettre noble, le mot noble, parce que vous voyez immédiatement l'image de l'aristocrate français. Vous pouvez pas mettre le mot prophète, vous voyez une image biblique. Les mots arrivent chargés d'images quand on les utilise, à cause de l'usage que nous en faisons. Donc il faut être très très prudent et voir quels sont les mots qui, depuis le Mahabharata ou depuis Flaubert, jusqu'à nous, n'ont pas varié et que nous pouvons encore utiliser. C'est un travail, un vrai travail, il faut bien le dire, que tout le monde ne fait pas, mais qu'il vaut mieux faire si on veut... Si vous voulez arriver à ce que vous dites, c'est-à-dire une langue qui soit claire, qui soit compréhensible et qui ne soit pas non plus trop recherchée, qui puisse s'adapter aux deux personnages, avec même entre les deux des nuances d'expression.
Pour finir, je pense qu'un des charmes vraiment de ce film, c'est qu'il a une disponibilité interprétative. Quoi. Il laisse ouvert la possibilité pour le spectateur de se faire son interprétation de l'histoire. C'est comme si vous n'aviez pas voulu donner une lecture de Pécuchet, mais plutôt essayer
J'ai l'impression, comme je le disais tout à l'heure, que c'était aussi le cas de Flaubert. Qu'il est parti au début avec l'histoire de deux imbéciles et que ces deux imbéciles se sont révélés plus intelligents qu'ils ne pensaient et plus malins. et que ces personnages l'ont floué d'une certaine façon, lui l'ont trompé. Et je crois, oui, je crois que c'est tout à fait juste. Je ne me sentais pas le droit de donner. Il faut toujours se méfier, tout auteur connaît ça, de juger ses personnages. Et c'était un des défauts de Flaubert au début, qui est d'abord en cours de route. De dire, je vais raconter l'histoire de deux cloportes, de deux crétins. Et pourquoi s'intéresser pendant des années à deux crétins? C'est la question qu'on se pose tout de suite. Pourquoi avoir choisi deux idiots? Il faut se méfier. Quand on tente de donner vie à un personnage, et au cinéma, c'est particulièrement flagrant, puisque ça va être confié à des acteurs qui vont le jouer. Quand on donne vie à un personnage, à quoi bon le mépriser? À quoi bon le dédaigner dès le départ? Non. Donnons-lui la possibilité, l'occasion de vivre devant nous et de voir ce qu'il a à nous dire. Ne le jugeons pas. Il y a toujours en chacun de nous, et quoi que nous fassions, un petit juge qui est immédiatement prêt à dire ça c'est pas bien, ça c'est moche, ça c'est bien, ça c'est sublime, ça c'est ordurier, ça c'est... Non, il faut se méfier de ça. C'est l'attitude la plus facile que nous avons à l'égard d'une œuvre. C'est de dire cette partie-là est géniale, celle-là est nulle, celle-là on va faire ça, ça on va pas le faire. Non, il faut être très blanc, très innocent comme ça, et arriver le plus dénudé possible, le plus dépourvu de...
C'est assez flagrant, parce que je pensais au Proust, enfin, de Raoul Ruiz,
oui.
Qui, lui, c'est un très beau film, hein, mais qui marque sa lecture, enfin, il
oui, est bien présent. Sûr, dedans, bien sûr, oui.
Ici, on a quelque chose de plus discret, hein,
En particulier de... Le traitement des autres, ça c'est une des difficultés souvent habituées.
Oui.
Ce couple est si central dans sa diversification.
Ils ont ce qu'on appelle le rôle-titre.
Ouais, c'est ça, voilà. Mais un rôle-titre
double,
complique, nuance, etc. Mais en même temps, la présence des autres. Et là, je trouve aussi, vous avez réussi à donner la même objectivité. Et moi, ça m'a frappé, le voyage, le déménagement, la rudesse.
Oui.
Celui qui tient la voiture
a
une justesse absolument extraordinaire. Il y a quelque chose de brutal là, qui passe. Et donc là aussi, il y a une sorte d'objectivité que vous avez obtenue avec les autres personnages. Or, c'est très difficile d'équilibrer le couple central et l'entour.
J'ai toujours adoré leur rencontre au début, là, qui est la rencontre de deux chapeaux, en fait.
Ça aussi.
Ça, c'est merveilleux. Ils se posent leur chapeau là. Tiens, vous avez...
Mais je trouve que tout le monde qui est autour d'eux aussi a une présence, une espèce d'objectivité.
Tout petit peu chargé des aristocrates, peut-être, un peu. Non, il le fallait un peu, puisque quand même, Pécuchet se met en colère.
Et le curé.
Ils sont chargés chez Flaubert.
Oui, aussi, bien sûr.
Le curé, quand même, parfaitement odieux.
Oui.
Il est d'une onctuosité magnifique.
Oui.
Et donc, ça aussi, c'était... Justement, cet aspect-là, ça devait être très délicat à gérer, cet équilibre avec l'entour, avec les autres qui deviennent hostiles, qui deviennent...
Dans toute espèce d'écriture, on peut dire ça, pas seulement de Beauvoir et Pécuchet, tout est difficile à gérer.
Oui.
Mais ce qu'il faut, si vous voulez, quand on aborde une histoire, quelle qu'elle soit, avec une idée préconçue du personnage, un jugement sur lui... On finit par le mélodrame. Le mélodrame, c'est ça. C'est-à-dire les personnages sont classés d'avance dans telle ou telle catégorie. Et quoi qu'il leur arrive, on ne leur donne aucune chance d'exister par eux-mêmes. Ils sont comme téléguidés par ce que nous avons décidé qu'ils seront.
C'est une balle de Balzac, ça.
Oui. Alors, il faut échapper à ça. À tout prix. Bien. Ben, écoutez, je vous laisse... Je vais rester un peu pour voir. Vous avez la projection maintenant?
Oui,
je vais rester un peu pour en voir des minutes.
Je voulais juste vous demander, moi j'étais très admirative des ombres que vous avez retrouvées. Les ombres au premier chapitre, puis les ombres au deuxième chapitre qui sont dans le roman, mais vous les avez vraiment bien projetées sur le mur, les ombres de Bouvard et Pécuchet qui se... Ça, c'est pas
compliqué,
non, mais
c'est pas
compliqué,
mais c'est vrai, j'y tenais beaucoup, oui, c'est vrai.
Mais... C'est pas difficile, mais il faut les avoir lus.
Oui, bien sûr.
Il fallait les avoir lus.
Les avoir lus, oui, bien sûr.
Et ça, c'est
inutile de vous dire que j'ai lu le livre attentivement et un assez grand nombre.
Et j'ai remarqué, c'est vous envoyez cela sur le mot, c'est comme un songe.
Oui,
et aussitôt, le jardin est complètement fantastique, et ça, c'est merveilleux, vraiment.
Écoutez, merci beaucoup. Alors, on va passer le film.
Un moment dans le fond.